Je vote pour la science avec Isabelle Bourgon.
Bonjour à vous. J'espère que vous vous portez bien. La campagne électorale se poursuit et certains candidats rappellent l'importance de la lutte au changement climatique et des enjeux touchant l'environnement. De nombreux électeurs attendent des promesses claires à ce sujet. On a parlé ici, à cette émission, du virage électrique, encouragé par la CAQ, avec le programme énergétique 2030. Pourtant, il a été beaucoup question du troisième lien que certains partis mettent toujours de l'avant et que bien des experts dénoncent comme une fausse bonne idée. Rappelons que le Canada serait responsable de 1,7% des émissions mondiales de GES et qu'il serait le troisième plus grand pollueur au monde derrière les États-Unis et l'Australie. La survie des caribous, la qualité de l'air, la santé, d'autres préoccupations environnementales méritent également que l'on s'y attarde. Nous allons voir tout ça tout de suite. Ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous entamons la seconde émission de notre cycle de trois émissions consacrées aux élections provinciales et aux enjeux de science. Aujourd'hui, nous intéressons au changement climatique et aux questions environnementales. Figure-t-elle en bonne place dans l'actuelle campagne électorale? Nous allons voir ça en compagnie de Patrick Bonin, bonjour, responsable de la campagne climat-énergie chez Greenpeace Canada. Vous allez bien?
Je vais bien, vous?
Oui. On est en compagnie de Simon Langlois-Bertrand, que j'ai la chance d'avoir en studio, qui est associé de recherche à l'Institut de l'énergie Trottier et professeur au département de sciences politiques à l'Université Concordia. Bonjour. J'ai aussi la chance d'avoir Dominique Gravel, professeur au département de biologie et titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie intégrative. Vous êtes par téléphone, mais je suis bien contente quand même de vous avoir avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Donc, la lutte contre les changements climatiques s'annonce l'enjeu numéro un des questions environnementales, mais ces derniers temps, les préoccupations environnementales semblent se multiplier. L'organisme Vire au vert organise d'ailleurs la semaine des débats Vire au vert, plusieurs circonscriptions à travers le Québec du 18 au 25 septembre. Pour commencer, trouvez-vous que les différents partis, quand vous regardez leur programme, leur discours aussi, mais aussi pour la CAQ, son bilan, en font assez, peut-être?
Ben, c'est sûr que c'est bien de voir plusieurs des partis, bon, 4 sur 5, là, qui semblent prendre au sérieux, finalement, là, l'ampleur des engagements qui sont nécessaires pour le court terme comme le long terme. On a des partis qui ont développé des programmes détaillés aussi, là. Québec solidaire et la CAQ ont quand même plusieurs détails, là, un niveau de profondeur qu'on n'avait pas vu avant. Mais bon, pour le reste, après ça, c'est des promesses, donc on attend de voir les détails pour plusieurs éléments là, qui restent quand même un peu vagues pour
oui,
l'instant.
Oui, M. Langlois-Bertrand, quand vous dites un niveau de profondeur, c'est quoi?
Bien, en fait, c'est quand on regarde les programmes, entre autres Québec solidaire, qui a vraiment fait un effort là, pour aller dans les détails de chaque secteur, chaque facette de l'enjeu climatique. Bon, c'est pas parfait. Il y a des choses qui sont pas qu'on aimerait voir aussi, mais au moins, il y a un effort de réflexion là, qui va au-delà de simples cibles là, qu'on veut toujours rehausser. Là. Donc, ça, c'est quand même bien à voir.
Oui, M. Bonin, quand vous regardez tout ça?
Mais, oui, peut-être juste préciser, là, je pense que M. Langlois-Bertrand a parlé de la CAQ qui avait un programme élaboré. Je pense qu'il le référait au PQ, je l'ai mentionné par la suite, là, parce que la CAQ n'a pas de programme actuellement environnemental. Ils ont en effet des plans gouvernementaux comme gouvernement sortant. Quand on regarde l'ensemble des partis, en effet, mettons les conservateurs dans une case à part. Là, clairement, l'environnement n'est pas une priorité et ils n'ont pas de plan digne de ce nom. Au contraire, ils proposent de reculer dans la lutte climatique. Par la suite, en effet, Québec solidaire et le PQ ont proposé des plans modélisés même, donc des plans avec des détails au niveau des réductions de gaz à effet de serre, exhaustifs, perfectible comme plan, mais définitivement, je dirais, les plus ambitieux. Quand on regarde au niveau de la CAQ en tant que telle, je le mentionnais, malheureusement, tout ce qu'on a actuellement sur la table de la part du gouvernement sortant, ce sont les plans gouvernementaux. Donc, il n'y a rien de nouveau, ou presque, de proposé à part des nouveaux barrages et un fonds sur l'eau. Et le problème, c'est que l'actuel plan gouvernemental, qui est le plan de la CAQ en termes de réduction de gaz à effet de serre ne propose des mesures qui permettraient d'atteindre seulement la moitié de la cible de réduction de gaz à effet de serre du Québec pour 2030. Donc, évidemment, c'est largement insuffisant. Ça ne permettrait pas d'avoir des réductions significatives de gaz à effet de serre d'ici 2026-2027, selon le gouvernement sortant. Donc, évidemment, c'est un problème parce qu'en plus, la cible du Québec, elle n'est pas encore assez ambitieuse en regard de ce que doit faire un État, une nation riche comme le Québec. Reste le PLQ, qui a un plan malheureusement relativement mince au niveau environnemental. Ils ont leur projet ECO, qui est de produire énormément d'hydrogène vert à partir de l'électricité renouvelable du Québec. Mais c'est évidemment une solution technique à un problème beaucoup plus large. Donc, c'est un plan qui est malheureusement grandement déficient du côté du PLQ.
Oui. Professeur Gravel, vous êtes spécialiste sur la protection de la biodiversité dans un environnement en changement à l'Université de Sherbrooke. Quand vous regardez tout ça, est-ce qu'on est sur la bonne voie quand vous regardez, écoutez les discours?
Bien, je trouve qu'il y a peut-être eu des changements majeurs dans les dernières années avec une emphase qui est de plus en plus forte sur les changements climatiques. Et puis, il semble qu'on oublie d'autres enjeux environnementaux qui sont tout aussi importants. Évidemment, ceux qui portent sur la biodiversité me concerne davantage, c'est le sujet que j'ai en prédilection, mais il y a une déconnexion assez importante entre la couverture qu'on a dans la campagne électorale actuelle de ces enjeux-là et la connaissance et l'importance de ces enjeux-là. Il y a déjà quelques années, on avait documenté qu'il y avait un certain décrochage entre la production de savoir scientifique sur la biodiversité, sur les changements climatiques, sur plusieurs enjeux environnementaux et la couverture médiatique. On avait déjà noté dans les années, au tournant des années 2010, une augmentation majeure de la couverture médiatique sur les changements climatiques et une couverture qui est presque invariable en ce qui a trait aux enjeux de biodiversité. Il semble que la campagne électorale actuelle fait juste renforcer ce décrochage-là. Il y a de la connaissance qui est produite, la science elle est produite, on est bien au fait des enjeux dans différents domaines, mais actuellement, tout ce qu'on entend parler, c'est de changement climatique, de cibles, de réduction de gaz à effet de serre, comme s'il n'y avait pas d'autres enjeux à part celui-ci.
Oui, tout à fait. On va rester encore un petit 5 minutes sur la question climatique. Donc, M. Langlois-Bertrand, vous êtes spécialiste en questions énergétiques ainsi qu'en relations internationales. Vous avez regardé les différents plans de réduction de gaz à effet de serre énoncés dans les programmes. Pouvez-vous nous commenter comment ils voient la transition énergétique?
Oui, ben en fait, encore une fois, ça prend la transition énergétique. C'est pas simplement une question de mettre des cibles puis d'essayer d'espérer qu'on se rend. Mmh. Ça prend une profondeur de transformation qui est jamais vue et qui est jamais vue dans la rapidité aussi dont il est question. Donc, il semble y avoir une conscience de cet enjeu-là qui était pas là avant. On voit des partis comme Québec solidaire qui vont même jusqu'à rehausser de beaucoup la cible de réduction pour 2030. Là. Donc, moins 55% si je me trompe pas. Et puis même le Parti libéral puis le PQ là, qui arrive à 45%. C'est plus, mais bon, de là à mettre de l'avant des mesures qui vraiment reflètent cette complexité-là de la transformation. Puis bon, j'utilise le mot profondeur pour dire que c'est le terme transformation, c'est vraiment le bon. C'est pas juste des ajustements à la marge. Comme M. Bonnet l'a noté tantôt, il manque quand même encore de vision cohérente là-dessus pour la majorité des partis. Bon, Québec solidaire semble avoir fait un effort très sérieux là, pour essayer de donner un ensemble de réponses. La CAQ, c'est effectivement dommage. On connaît les insuffisances du plan actuel, des mesures jusqu'ici. Et puis, bon, on voit pas grand-chose de nouveau là, jusqu'ici de discuter. Donc, ça, c'est assez inquiétant quand même, là, pour au moins le court terme. Puis, évidemment, ben, ça se reflète sur le long terme aussi. Là.
Oui, M. Bonin, c'est important. C'est un défi de taille, cette urgence climatique. Est-ce que les partis reconnaissent son ampleur et travaillent à cette transition?
À part le Parti conservateur, les partis reconnaissent l'ampleur de l'urgence climatique. Par contre, au niveau des moyens proposés, on en mentionnait tantôt, donc on n'a pas nécessairement les moyens qui vont avec l'ampleur du changement systémique qu'on doit avoir. Là, on parle de changement majeur dans l'ensemble de la société. Et je remercie d'ailleurs M. Gravel d'avoir amené la question de la biodiversité. C'est en effet essentiel qu'on en discute. Au niveau des partis, c'est très maigre ce qui est proposé. opposés. Et on ne peut pas dissocier biodiversité de climat, en ce sens que ce sont deux crises environnementales majeures. Et oui, on parle malheureusement pas assez de la crise, de la perte de la biodiversité, mais il y a des liens entre ces deux crises-là. Entre autres, il y a la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour contrer la crise climatique, mais il y a aussi une autre nécessité qui est d'augmenter la protection du territoire et de permettre justement de garder la séquestration du carbone en forêt, par exemple, dans les vieilles forêts, dans les écosystèmes, et même d'augmenter cette séquestration. Donc, on parle de nécessité de protéger au moins 30% du territoire d'ici 2030, et avec la protection du territoire vient également la protection de la biodiversité, évidemment. Donc, cette dimension, malheureusement, est très faible. Au niveau de la vision de la transition aussi, il y a un manque flagrant, et c'est réparti parmi tous les partis, je dirais, là, de discussions et de propositions au niveau de la sobriété énergétique. Donc, l'idée de réduire notre consommation, oui, à commencer par les hydrocarbures, mais la consommation en général, avant d'envisager des moyens supplémentaires de production, par exemple. Donc ça, c'est certain que on n'y arrivera pas au Québec à faire notre juste part, à faire cette transition, si on n'attaque pas de front cette question de l'essentiel sobriété énergétique et autres qu'on doit faire.
Oui, justement, professeur Gravel, il importe de s'intéresser aux enjeux de biodiversité et de foresterie en lien avec les changements climatiques, mais pas seulement. Donc, quels sont-ils pour vous les enjeux de biodiversité importants ou incontournables pour ces élections?
Il y en a de très nombreux. Il y a ceux qu'on entend parler couramment dans les médias. Il y a des espèces emblématiques qui attirent énormément d'attention. En ce moment, en raison, entre autres, de la pression que le gouvernement fédéral met sur le gouvernement provincial, il y a le caribou des bois qui est un peu une espèce emblématique et qui permet de remettre de l'avant toute une série de problèmes associés aux pratiques forestières. Il y a d'autres exemples qui ont été éloquents dans les dernières années, là. Ne serait-ce que la rainette faux-grillon qui a amené un changement de nos pratiques dans la région de Montréal. Mais il y a des changements aussi qui sont beaucoup plus insidieux. Alors, notre législation, elle met beaucoup l'emphase sur des espèces à statut précaire, qui sont documentées, qui sont menacées de l'extinction. Les lois ont montré qu'elles peuvent être efficaces dans le cas de ces exemples-là, avec le caribou puis la rainette-là. Néanmoins, il y a des changements de biodiversité qui sont beaucoup plus insidieux, qu'on voit pas nécessairement ou qui font juste partie de notre quotidien puis qu'on réalise pas qu'ils sont en cours de réalisation. Il y a tous les changements qui sont en lien avec le réchauffement. Il y a beaucoup d'espèces qui vont se trouver à migrer vers le nord. Il y a des modifications qui sont appelées à arriver de nos écosystèmes. Et la loi sur les statuts, sur les espèces menacées changera pas grand-chose. À titre d'exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, dans les 100 dernières années, c'est très bien documenté, puis il y a d'autres régions aussi au Québec où c'est survenu. Il y a eu des modifications profondes de nos écosystèmes où on est passé d'une forêt qui était essentiellement boréale, là, vous savez, là, dominée par des espèces conifériennes comme le sapin, comme l'épinette. Une forêt où c'est des perturbations majeures comme les épidémies de tordeuses puis les incendies forestiers qui surviennent puis qui affectent la dynamique de ces forêts-là. Elles ont été changées à la suite de la foresterie en une forêt qui est beaucoup plus feuillue, dominée souvent par des peupliers ou même par de l'érable à sucre, une forêt qui est un petit peu plus chaude aussi, où le régime de perturbation est différent, mais aussi tous les processus écosystémiques qui y sont associés, notamment la séquestration de carbone, a été profondément modifiée. Et ces changements de biodiversité-là, ils sont extensifs, ils sont à travers tout le territoire, et puis ils sont complètement en dehors de notre écran radar en ce moment. Il n'y a pas personne qui se préoccupe de ces changements-là, alors que ils sont majeurs, ils ont influencé de très nombreuses espèces, de très nombreux écosystèmes, de nombreux processus, puis tous les services qu'on en retire également. Et ça, c'est complètement absent du discours actuel.
Oui. Vous parlez de la préservation de la biodiversité, les aires protégées. On pourrait parler aussi de la qualité de l'air, de bioénergie. Un petit top 5 des priorités, M. Bonin? Hormis le climat, on dira.
Oui, hormis le climat. Je vous dirais, il y a souvent plusieurs liens avec le climat et aussi la perte de biodiversité. Prenez par exemple la nécessité de revoir l'aménagement du territoire, de limiter l'étalement urbain, de densifier nos villes. C'est un problème majeur au Québec. L'étalement urbain, évidemment, avec ça vient l'augmentation des déplacements également au niveau des voitures, souvent la voiture solo. Donc, il y a une nécessité d'avoir avoir des politiques beaucoup plus ambitieuses au Québec pour permettre justement de décourager cet étalement urbain et de protéger par le fait même terres agricoles, mais également tout ce qui est espace vert dont on a besoin et qu'il faut même augmenter en termes de superficie du territoire et de permettre l'accès, entre autres, à ces espaces verts pour les populations. Je vous dirais également un autre enjeu majeur, vous l'avez mentionné, au niveau de la qualité de l'air. On parle beaucoup des changements climatiques. Évidemment, il y a un lien parce que près de 60% de la pollution de l'air au Québec provient de l'utilisation, entre autres, des autos et du transport en général. Mais c'est quand même près de 4000 personnes par année qui meurent au Québec de manière prématurée, avec des dizaines de milliards de dollars de coûts au niveau du système de santé. Et on n'a pas de politique digne de ce nom et de plan pour améliorer la qualité de l'air au Québec. Et ça, c'est évidemment un enjeu qu'il faut réaliser qu'il y a des gains à faire au niveau de la santé, au niveau de la qualité de vie des gens, en travaillant sur la qualité de l'air, sur la réduction des émissions. Donc, cette dimension, évidemment, est centrale. Je vous dirais, un autre aspect dont on parle peu aussi, c'est toute la question de l'agriculture, de l'élevage également. Donc, il y a une nécessité de, entre autres pour lutter contre les changements climatiques et d'autres raisons, de réduire notre consommation de viande. Donc, cet aspect-là, les parties, malheureusement, n'en parlent pas. Viande et produits laitiers, je dirais même, qui sont une source d'émissions de gaz à effet de serre massive en raison du type d'élevage, entre autres, qu'on a actuellement. Et un autre aspect en lien avec l'agriculture qui peut mentionner, c'est la nécessité de réduire drastiquement l'utilisation des engrais chimiques. Donc, on parle d'engrais produits, entre autres, par gaz fossile ou gaz naturel avec une source d'émissions de gaz à effet de serre importante. Là, c'est près de 10% des émissions au Canada qui sont liées à la production d'engrais chimiques. Et malheureusement, les partis n'en parlent pas, mais il faut faire ce virage-là dans l'agriculture au profit, entre autres, d'une autre agriculture de proximité, mais également biologique.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Monsieur Langlois-Bertrand, il y a de la pollution derrière tout ça. On retrouve beaucoup de surconsommation, de gaspillage de ressources. Quelle est la place de l'économie circulaire dans l'actuelle campagne?
Ben, à ma connaissance, c'est juste le Parti libéral du Québec qui mentionne vouloir développer une stratégie. Comme pour d'autres mesures proposées dans leur programme, il n'y a pas beaucoup de détails, mais on voit quand même la mention. Bon, la CAQ est supposée être en train de développer sa stratégie ou a été publiée là, dans les premières étapes récemment. Mais bon, après ça, est-ce que dans la campagne, on en entend suffisamment parler, absolument
moi,
pas.
Moi, j'en ai pas entendu parler.
Ça me semble être au centre de beaucoup des autres questions. Là. Bon, tout est lié. M. Bonnet a fait une très bonne revue là, des enjeux, puis on peut voir facilement les liens entre chaque aspect. Je pense que l'économie circulaire doit apparaître là, dans cette liste-là. C'est pas ce qu'on voit jusqu'ici.
Non, du tout. Professeur Gravel, pensez-vous que les électeurs, les citoyens, sont assez informés sur les enjeux environnementaux, particulièrement ceux de biodiversité?
Ça me ramène au point que je soulignais tout à l'heure, là, qui se déficit de communication qu'on trouve entre la couverture médiatique des enjeux climatiques et des autres enjeux environnementaux. Alors, ma réponse claire, c'est non. Les citoyens ne sont pas assez informés. Puis c'est pour ça que nous, on s'est investi depuis quelques années à essayer de développer une plateforme qu'on appelle Biodiversité Québec, qui a pour mission de communiquer à différents publics l'information sur les changements de biodiversité. Alors, on est en train de développer tout un système informatique, un système de données pour rendre accessible cette information-là avec des tableaux de bord interactifs et puis des reportages réguliers où l'information sera communiquée puis sera rendue accessible pour différents publics. Alors, on parle autant des gens qui sont impliqués dans la gestion du territoire comme des élus, que ce soit municipal, dans les MRC ou même au niveau provincial. Et encore, on parle aussi d'autres acteurs et on va jusqu'au grand public. Alors, il y a toute une panoplie d'outils interactifs qui vont être développés pour réussir à assister la décision à partir d'informations scientifiques de qualité sur les changements de biodiversité.
Oui, on a bien hâte de voir ça. On mettra ça sur la page aussi. Monsieur Bonin, quelles sont les attentes en environnement de la part des électeurs? Il y a de plus en plus de personnes éco-anxieuses, particulièrement chez les jeunes. Alors, comment les rejoindre ou les rassurer ou pas?
Mais on voit une préoccupation environnementale qui est encore une fois très présente. Elle a varié au cours des dernières années, entre autres parce que la pandémie a pris beaucoup de place au niveau des préoccupations. Mais en général, c'est une préoccupation qui augmente. Et si vous regardez, par exemple, Radio-Canada a mis en place la boussole électorale. Et donc, ça permet aux gens de s'informer sur les plateformes, mais également de donner leur opinion et leur les priorités. Et vous voyez que sur les 28 000 répondants qu'il y avait il y a quelques jours, eh bien, 31% des gens pensaient que l'environnement est l'aspect le plus important, donc l'enjeu le plus important, et ça c'est loin devant la santé, loin devant l'économie qui sont à environ à 20%. Donc c'est, oui, une préoccupation majeure. Malheureusement, évidemment, on a des campagnes qui se propulsent à coup d'annonces, et là, ces annonces-là, jusqu'à maintenant, ben on reste sur notre faim à plusieurs égards. Donc il faut que les gens s'informent, il faut aussi que les gens aillent voter et influencent leur influencent également leur candidat, et ça, ben on voit une tendance où les gens les plus préoccupés en général, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes, et malheureusement, là je parle au niveau de l'environnement, évidemment, c'est leur avenir qui est en jeu après tout, mais malheureusement, on voit un taux de participation qui est le plus bas, c'est dans ce bastion de population. Donc c'est également important que ça se traduise en vote, ce genre de préoccupation-là. Et je vous dirais, les gens peuvent non seulement se renseigner, mais doivent également aller consulter les programmes des partis, parce que on l'a mentionné, il y a des différences quand même majeures entre les programmes. Ne serait-ce que, je parle d'un point de vue climatique, mais environnemental, c'est également préoccupant, mais vous avez, j'y reviens, Québec solidaire et le Parti québécois qui ont proposé des plateformes spécifiques sur le climat, qui sont très détaillées au niveau des transports et à plusieurs autres égards, mais vous avez par la suite les autres partis qui font preuve de moins d'ambition. Et ça, évidemment, il faut s'en préoccuper, parce que à l'ère de la crise climatique et de la perte de la biodiversité, on devrait avoir des engagements inégalés, et malheureusement ce n'est pas le cas de la part de tous les partis.
Mais parle-t-on aussi des questions environnementales en région? C'est là que l'on craint souvent que l'emploi recule si on vise les grandes industries et la réduction de pollution. Est-ce que ça ne serait pas aussi le temps de revoir un petit peu les réglementations et nos objectifs? Peut-être M. Langlois-Bertrand, les régions?
Je dirais que c'est au parti à proposer des projets pour ça. J'aime pas qu'on voit un projet ressassé puis rediscuté en termes de pour ou contre. Mm-hmm. Bon, il y a des alternatives qui sont beaucoup plus compatibles dans ce cas précis-là, bien sûr, là, avec la réduction des gaz à effet de serre, par exemple, mais aussi avec le genre de transformation sociétale qu'on vise. Donc, on voit très peu, justement, de ces promesses-là à date dans la campagne. Quel genre ces projets-là plutôt proposés mm-hmm. pour les régions? Donc, comment faire, justement, pour avoir des projets qui soient porteurs puis qui soient compatibles?
Je ne sais pas pourquoi. Je pense à la fonderie Orne, là, qu'on pourrait dire, ah non, la fermer, pas la fermer, mais on pourrait imaginer un entre-deux. Imaginez justement que la réglementation soit un peu plus respectée, puis continuer à avoir ces emplois-là, parce que c'est important pour les régions.
Oui, bien sûr, là, il y a des changements réglementaires qui semblent absolument essentiels, puis qui peuvent fonctionner très bien. Après ça, il faut aussi penser à l'avenir, puis à mm-hmm. des nouveaux projets. Donc, on parle surtout d'emplois de façon un peu générale depuis le début de la campagne, mais alors qu'on devrait avoir des propositions sur comment on a une vision là-dessus, justement. Là.
Oui, professeur Gravel, on oppose encore souvent environnement et économie, alors ce qui serait bon de travailler ensemble. Par exemple, si on prend la valorisation des ressources naturelles comme le bois, il serait temps de revoir les pratiques forestières, mais pas de l'arrêter, évidemment, continuons quand même à exploiter nos forêts, n'est-ce pas?
Les solutions en matière de biodiversité et de climat vont souvent de pair et dans certains cas peuvent être cohérentes avec du développement économique. Mm-hmm. Ne serait-ce que la création d'aires protégées, par exemple, qui peut servir à la fois des intérêts pour la biodiversité en protégeant certaines espèces, puis en réduisant la pression qu'il y a sur un territoire. Les aires protégées vont aussi aider à la séquestration de carbone, au développement de vieilles forêts et de milieux humides qui vont contribuer à réduire les émissions, ou au moins à compenser les émissions croissantes de gaz à effet de serre. Et finalement, très souvent, ces aires protégées-là sont utilisées à bon escient. Elles deviennent, en région, un outil de développement intéressant sur lequel on peut construire, on peut miser. C'est aussi un outil d'attachement qui va fédérer les citoyens en région par tout simplement cette valorisation de leur territoire et de leur capital nature.
Monsieur Bonin, un mot de la fin très rapide. On propose souvent des solutions technologiques à des problèmes environnementaux, mais en fait, il faudrait plutôt réviser nos manières de faire.
Non seulement il faut réviser, mais il faut le faire rapidement. Je vous rappelle qu'au niveau mondial, les scientifiques nous disent qu'il faut une réduction d'émissions de gaz à effet de serre de près de 50 % d'ici 2030. Donc, couper les émissions mondiales de près de moitié dans les 8 prochaines années, même pas 8 ans. Donc, c'est du jamais fait et il faut le faire rapidement. Et ça, oui, il y a un rôle à la technologie, mais il est limité. Il faut avoir des changements profonds au niveau de notre mode de vie. Et ça prend de l'éducation également pour faire comprendre l'ampleur des problèmes, les risques si on ne fait rien, mais aussi quelles sont les solutions et les avantages de ces solutions-là dont on ne parle pas suffisamment. Par exemple, l'amélioration de la qualité de l'air, l'amélioration de la productivité qui vient avec l'amélioration du transport collectif ou réduire le trafic, la création d'emplois au Québec dans des secteurs justement d'avenir, la qualité de vie à mettre en place des parcs et des couverts forestiers, à mettre en place des infrastructures au niveau du transport actif, par exemple, penser au vélo ou à la marche, l'amélioration du budget également familial lorsqu'on réduit la consommation d'hydrocarbures ou l'utilisation des véhicules. Mais je pense que je terminerai en disant cette élection, elle est cruciale pour envoyer un message également au prochain gouvernement que l'environnement est important. Et en ce sens-là, il faut que les gens aillent voter, particulièrement les jeunes. Et il y a aussi une manifestation qui est organisée, en fait, plusieurs manifestations. Il y en a 9 à travers le Québec le 23 septembre prochain. C'est une manifestation de grève mondiale pour la justice climatique, donc des étudiants et étudiantes qui se mobilisent avec également des travailleurs et des organisations pour lancer un message clair qu'au Québec, l'environnement, c'est important. C'est une question de santé, d'économie, de qualité de vie, de transport, d'alimentation. Donc, il faut qu'on soit plusieurs, je dirais, parce qu'on voit actuellement que face à l'ampleur de la crise climatique, plusieurs partis ne proposent pas des solutions à la hauteur de cette crise-là. Et je pense qu'il faut revenir à la base et envoyer un message clair en sortant en grand nombre le 23 septembre. Et c'est à 13h au Parc du Mont-Royal que ça commence le 23 septembre, cette grève mondiale pour la justice climatique.
J'avais dit un mot rapide, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, vous l'avez entendu, allez voter surtout. Allez manifester peut-être, mais surtout allez voter. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Patrick Bonin, responsable de la campagne climat-énergie chez Greenpeace Canada, de Simon Langlois-Bertrand, associé de recherche à l'Institut de l'énergie Trottier et professeur au département de sciences politiques à l'Université Concordia, et de Dominique Gravel, qui est professeur au département de biologie de l'Université Sherbrooke et surtout titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie intégrée. Je sais qu'il participe aussi, fait partie de l'équipe du Climatoscope, une revue francophone de vulgarisation scientifique sur les changements climatiques. On mettra le lien aussi dans la page de l'émission. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci. Bonne journée. Au revoir.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Fanny Robartcher. À la réalisation au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez les rediffusions à votre radio ou sur le site de l'agence Science Presse. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Et sinon, écrivez-nous à isabelle@sciencepresse.qc.ca. Nous aimons vous lire. Passez tous une bonne semaine. Portez-vous bien.